Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Je ne sais pas vous, mais c'est fou le nombre de parents que je croise et qui me déclarent avec fierté que leur enfant est certainement surdoué, intellectuellement précoce, bref, bien plus avancé que notre propre progéniture. Nous verrons ce matin comment vraiment identifier un enfant surdoué, à rebours des fantasmes et des idées reçues, quels sont les signes qui doivent mettre la puce à l'oreille, le test de quotient intellectuel est-il fiable ? Existe-t-il d'autres moyens de repérer un zèbre, comme se surnomment parfois les surdoués ? Comment faire pour qu'ils se sentent épanouis une fois identifiés ? Nous attendons vos questions, témoignages et réactions par courriel, grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook. Et au standard de France Inter, Josué et Clarisse attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez la chronique de Julia Foyce, Il était une fois dans le web.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Il y a une chose dont il faut qu'on parle. C'est à propos de Malcolm.
J'ai rien fait.
Si, c'est lui, je l'ai vu.
J'ai reçu un professeur ce matin. Elle a fait passer des tests à Malcolm. Il a un quotient intellectuel de 165.
Qui ?
Malcolm ! C'est un génie. Il va aller dans une classe spéciale.
Quoi ?
Malcolm est spécial ? De qui il tient ça, à ton avis ?
Il va suivre un programme spécifique. Il aura un tas de livres à sa disposition, des profs très calés et d'autres trucs qu'on n'en aura jamais à des gamins normaux. Il commence lundi.
C'est dans la classe des têtes d'ampoule qu'il va aller ?
Mens pas ça, j'ai pas envie d'y aller.
Quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ?
Non, je veux rester dans ma classe actuelle, je veux pas être une tête d'ampoule.
Il n'y a aucun mal à ne pas être bête. Il n'y a aucun mal à être coupé du troupeau.
J'aimerais bien changer de famille.
Malcolm ! Yes, no.
Un extrait de la comédie télévisée américaine, Malcolm, avec nous pour nous aider à identifier les enfants surdoués ou intellectuellement précoces. Gabriel Val, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, ancien professeur de psychologie à l'université Paris 7, et vous avez publié Les enfants intellectuellement précoces, un que sais-je, paru au PUF. Bonjour Jeanne Siofachin.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, et vous avez notamment publié chez Odile Jacob L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir. Alors, pour commencer, est-il préférable de parler d'enfant précoce, d'enfant surdoué, d'enfant à haut potentiel intellectuel, d'enfant intellectuellement précoce, Gabriel Val?
Oh, je crois que les termes sont équivalents, ils ont tous des défauts, mais on peut considérer qu'ils sont à peu près synonymes. Bien sûr, la précocité ne peut pas s'appliquer aux adultes, donc par conséquent, c'est un terme qui ne peut intéresser que les enfants. Surdoué, ça donne une impression qu'il y a un excès, peut-être même une pathologie dans le mot. Au potentiel, c'est un mot très joli, mais il n'y a pas que du potentiel dans le surdon, il y a aussi de la réalisation. Donc finalement, chacun des termes, en attendant d'en trouver un meilleur, me paraît convenir.
Oui, bien sûr, et c'est important justement de bien le préciser aux auditeurs. On parle vraiment des mêmes enfants, quelle que soit la terminologie.
Alors, l'expression « enfant intellectuellement précoce » est labellisée par l'Éducation nationale depuis 2009, Gabriel Val ?
Oui, tout à fait. C'est le terme officiel qui permet au moins de savoir que l'on parle à peu près de la même chose, avec des critères donc qui sont reconnus par l'Éducation nationale et qui sont reconnus par l'ensemble de la corporation psy.
Alors, cette émission devait initialement s'appeler « Comment détecter un enfant surdoué ?» Et hors antenne, vous avez dit « il vaut mieux parler « Comment identifier un enfant ?» enfant surdoué, Gabriel Val.
Oui, c'est le.
Vous me parlez d'identification plutôt que de détection.
Oui, certainement, parce que le terme de détection peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines, et l'identification, je crois que c'est un terme qui a l'avantage de donner une certaine neutralité, c'est-à-dire de ne pas impliquer dans l'expression qu'il y aurait un problème avec le surdon.
Jeanne Soufachin.
Oui, je crois que surtout, il faut éviter le terme de diagnostic, même si c'est quelque chose de courant dans nos métiers de cliniciens, on parle vite de diagnostic, mais le diagnostic peut tout de suite induire qu'il y aurait une pathologie. Or, c'est une spécificité du fonctionnement intellectuel et d'un enfant, et il ne s'agit évidemment pas de pathologie à aucun moment, même si après, comme on le verra, ça peut induire certaines difficultés, mais surtout beaucoup de richesses.
Alors vous, Jeanne Siofachin, vous ne confondez pas tout à fait un enfant surdoué et un enfant intellectuellement précoce.
Si, comme on vient de le dire, on parle des mêmes enfants. Et comme le précisait Gabriel Wall, ce qui est important, c'est quand on parle de précocité, on pourrait avoir l'impression qu'on parle d'un développement précoce. C'est-à-dire que ça serait donc des enfants qui, plus rapidement que les autres, ont acquis un certain nombre de compétences, en particulier de compétences intellectuelles. Et que, comme on fait une puberté précoce ou une croissance précoce, à un moment, tout le monde rattrape tout le monde. Et comme le disait Gabriel, on ne peut plus après parler chez les adultes de précocité. On m'a demandé un jour de faire une conférence sur l'adulte intellectuellement précoce. Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis, ça induit une notion de développement. Donc, on n'est pas dans quelque chose de développemental, même si on peut remarquer chez certains enfants surdoués, mais pas tous, une rapidité de développement dans certains secteurs intellectuels. Mais ce n'est pas une constante.
Alors, pourquoi les enfants surdoués se comparent-ils souvent à des zèbres ?
Alors ça, c'est vrai que c'est un terme que moi j'ai introduit il y a longtemps, hein, dans les années 2000. C'était simplement justement pour sortir de cette terminologie. Et puis parler de zèbres, c'était aussi parler de ces animaux qu'on repère un peu facilement dans la jungle. Et surtout, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que les rayures du zèbre sont uniques, comme les empreintes digitales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux zèbres qui se ressemblent, de la même façon qu'il n'y a jamais deux enfants qui se ressemblent. Chaque enfant est unique et c'est ça qui est important, c'est-à-dire d'avoir ce regard bienveillant sur chacun des enfants qui nous sont confiés dans nos métiers, dans notre pratique clinique.
Gabriel Val, être un enfant surdoué, c'est penser dans un système différent, c'est disposer d'une forme d'intelligence particulière.
Je ne crois pas. Je ne crois que pour l'essentiel, la précocité intellectuelle, c'est une avance et un certain nombre de caractéristiques, mais l'intelligence d'un enfant précoce ne se distingue pas fondamentalement de l'intelligence d'un enfant non précoce, sinon par le talent, sinon par un certain nombre d'éléments que l'on peut repérer, par exemple un certain brio verbal, une curiosité intellectuelle, la capacité d'agencer des idées de façon subtile, etc. Mais si vous voulez, il n'y a pas de différence fondamentale. En tout cas, les études n'indiquent pas, lorsqu'on fait passer des tests aux enfants précoces, n'indiquent pas, si vous voulez, qu'il y a une différence fondamentale de fonctionnement intellectuel. Mais je suis pas sûr.
Jeanne Siofachin, qui dodeline un peu.
Oui, je dodeline un peu parce que je suis à la fois totalement d'accord et à la fois un tout petit peu pas d'accord. Dans le sens où, déjà, par exemple, au niveau de l'imagerie, au niveau de toutes les études neuro, on peut voir des différences de fonctionnement au niveau du cerveau, c'est-à-dire une plus grande densité de connexion entre l'avant et l'arrière du cerveau, une connectivité qui est plus importante, une connexion entre les deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, qui est plus importante, ce qui va donner une forme de puissance et d'intensité de fonctionnement intellectuel chez ces enfants-là. Donc, c'est pas tellement une question, c'est pour ça que je veux pas du tout avoir une sorte de désaccord avec Gabriel sur ce point-là. C'est pas une question tellement de savoir si c'est qualitativement différent ou pas, mais en tout cas, cette forme d'intelligence qui est singulière va forcément, dans la vie courante, montrer des décalages avec les autres enfants. Et c'est dans ces décalages que peut se créer un certain nombre de difficultés.
Alors, quelles sont les idées reçues
sur... Je voudrais préciser là sur ce point-là. Alors, tout à fait d'accord pour considérer que, biologiquement, il y a des différences. Par exemple, le développement du cortex est plus lent chez les enfants précoces. Donc ça laisse l'idée qu'il pourrait y avoir plus d'ouverture avec l'environnement. Par exemple, il y a une certaine énergie neuronale qui est en quelque sorte plus performante chez l'enfant précoce. C'est-à-dire que pour un même exercice, l'enfant précoce va dépenser moins d'énergie. Mais dans les faits, quand vous avez un enfant précoce, peut-être que c'est une simplification, mais si vous voulez, vous avez un enfant précoce qui a 6 ans, il va fonctionner comme un enfant de 9 ans. Et on sera bien en peine, sauf sur certains critères, de distinguer l'enfant de 6 ans qui fonctionne comme un enfant de 9 ans et l'enfant de 9 ans qui n'est pas précoce, qui fonctionne avec son âge.
Alors, quelles sont les idées reçues sur les enfants surdoués que vous aimeriez une bonne fois pour toutes démonter ? Jeanne Siofachin.
Alors moi je pense que les enfants surdoués doivent être considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire effectivement des enfants avec une grande intelligence, une forme d'intelligence singulière, que chez ces enfants-là il y a toujours une coloration affective de leur personnalité, probablement par cette implication justement des deux hémisphères et de l'hémisphère droit qui est aussi celui qui va piloter tous les aspects affectifs. Alors c'est une simplification incroyable, et puis je crois qu'il faut faire attention à ne pas confondre surdoué et génie, parce que même si effectivement, être surdoué peut permettre une réalisation spectaculaire et formidable. On a quand même un président très spectaculaire et qui est une belle démonstration de ce que peut être cette forme de pensée. Mais qu'on ne peut pas non plus superposer le fait d'avoir un petit génie et cette espèce, vous le disiez en introduction d'émission, de ses parents qui finalement tirent une certaine satisfaction d'avoir un enfant surdoué, comme si finalement ça les rassurait. Et je crois que c'est ça, il faut faire très attention, parce que ces enfants-là peuvent aussi avoir, avoir un certain nombre de difficultés. C'est pas obligatoire, mais ils peuvent les avoir et c'est important de les repérer.
Gabriel Val, l'idée reçue qui vous agace sur les enfants surdoués.
Oui, alors là, l'idée reçue, c'est pour moi la seule question qui compte peut-être dans l'émission. Enfin, j'en attendrai d'autres, mais en effet, il y a un certain nombre d'idées reçues qui font beaucoup de tort, j'irais aux enfants précoces et aux parents, qui est que le surdon pourrait avoir beaucoup d'inconvénients. Alors, il y en a certainement, mais c'est vraiment à la marge. Par exemple, on dit souvent que les enfants précoces sont en échec scolaire. C'est faux. Ils sont en excellence scolaire. Les statistiques le montrent. Plus on a un QI élevé, plus on réussit scolairement et professionnellement. Par exemple, on dit qu'ils sont plus anxieux que les autres. C'est faux. Ils sont plutôt moins anxieux que les non-surdoués. On dit qu'ils sont plus soumis à des troubles d'apprentissage. C'est également faux. Ils n'ont pas plus de TDAH, par exemple, que les autres enfants.
Rappelez ce qu'est le TDAH.
L'hyperactivité, le trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc, la réalité statistique des enfants précoces, c'est qu'ils sont soumis à toutes les chances. Et la réalité marginale, mais qui naturellement éclabousse, si j'ose dire, les psys, parce que c'est ceux-là qui consultent, ce ne sont pas les autres, les enfants brillants n'ont pas de temps à perdre avec les psys, lorsqu'ils n'ont aucun problème. Donc c'est une illusion, c'est ce qu'on appelle un biais d'échantillon, et ça c'est vraiment un problème majeur. Il faut vraiment que les parents comprennent qu'avoir un enfant précoce, c'est une chance. Et je reçois parfois des parents en consultation qui m'annoncent comme une catastrophe que le QI est élevé. Et je passe du temps d'abord à les rassurer.
Bonjour Émilie, est-ce que c'est votre cas? Vous appelez de Rion. Vous avez deux enfants. Est-ce que l'un d'eux est surdoué, est considéré comme surdoué?
Eh bien, en fait, depuis le mois dernier, nous savons que les deux sont considérés comme à haut potentiel, surtout, et je ne sais pas vraiment comme il faut dire. Voilà. Et en fait, autant le diagnostic pour le dernier a été clair que pour le premier, nous nous posons toujours des questions. Parce qu'en fait, il n'est considéré ni comme haut potentiel, ni surdoué. J'ai un compte rendu, en fait, moi, d'un psychologue qui me dit que mon enfant a un très bon fonctionnement intellectuel. Voilà. Mais en fait, qu'il n'y a pas de QI associé au test qu'il a passé. Il n'y a pas de chiffres, car les résultats sont considérés comme peu homogènes. Et le dernier psychologue que j'ai vu m'a dit, mais madame, même si les résultats sont peu homogènes, votre fils peut être considéré comme à haut potentiel.
Jeanne Souffrachin.
Oui, et c'est peut-être, bonjour à Émilie, c'est probablement la limite des tests au niveau de l'identification justement de ces enfants-là, parce que c'est assez rare. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour pouvoir poser un diagnostic, pour savoir si un enfant est surdoué ou pas, de toute façon, ce n'est pas au feeling, hein, c'est pas au doigt mouillé ou au regard échangé. Ça doit passer par un bilan psychologique. Un bilan psychologique, ça comprend à la fois une échelle d'intelligence, hein, qui sont validées scientifiquement et qui sont utilisées dans le monde entier, toutes les mêmes, et validées selon les cultures, et aussi des bilans de personnalité, justement, pour pouvoir intriquer les deux. Et ce qui se passe souvent, c'est que dans ces échelles d'intelligence, il y a un certain nombre de facettes qui sont explorées, et que l'ensemble des facettes ne soient pas au même niveau, ce qui rend un peu plus complexe, justement, l'analyse de ces profils-là. Et ce sont d'ailleurs ces profils-là qui peuvent avoir des difficultés à l'école, parce qu'ils auront moins de facilité que ceux qui ont des profils homogènes à utiliser pleinement et à réaliser leur potentiel.
Gabriel Val.
Alors, les tests, naturellement, d'intelligence ont tous les défauts, mais rien ne peut leur être comparé en qualité et en fiabilité. Donc, par conséquent, c'est quand même quelque chose qui doit être considéré comme indispensable au diagnostic, même si on peut faire... Alors, j'ai dit diagnostic et je me reprends immédiatement. Et là, je ne peux pas me gifler à la radio, mais je l'aurais fait volontiers. Donc, c'est indispensable à l'identification. Et il y a une pré-identification par des critères cliniques. Là aussi, c'est un terme qui ne devrait pas être utilisé. Par exemple, le sens de l'esthétique, le sens de l'humour, la curiosité intellectuelle, la boulimie scolaire, etc.
Émilie, est-ce que vous êtes satisfaite de nos réponses?
Est-ce que je dois vous faire plaisir ou...
Dites-nous la vérité.
Mais moi, je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette hétérogénéité. Ce qui est important, c'est de comprendre un enfant. Et s'il y a cette hétérogénéité, ce qui est important de voir avec le psychologue qui a fait le bilan, c'est d'où vient cette hétérogénéité et comment on peut aider votre enfant.
Voilà, alors, c'est ce que j'essaye d'obtenir actuellement.
Je vais vous donner une réponse un peu technique. Le QI, ça correspond à une addition d'indices. Donc, si le QI est homogène et qu'on a, par exemple, plus de 130, on peut parler donc de précocité intellectuelle. Si les indices ne sont pas homogènes entre eux, à ce moment-là, on tiendra compte plutôt des premiers indices, c'est-à-dire, pour reprendre une terminologie ancienne, le verbal et le performance. Et s'il y a un contraste, il faut s'interroger sur la possibilité qu'il y ait un autre problème qui explique le contraste entre les indices. Voilà, je ne sais pas si ma réponse vous convient.
Oui, c'est à peu près ce que j'essaye de faire entendre en ce moment aux personnes qui suivent mon fils.
Merci beaucoup, Émilie, de nous avoir appelé de Rion. Alors, pour poser vos questions et témoigner sur les enfants surdoués, eh bien, vous pouvez nous appeler donc au 01 45 24 7000 et nous contacter par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Grand Bien Vous Fasse, une émission préparée par trois surdoués, Laure Grand-Besançon, Lorraine Bess et Clara Marliot, et réalisée par Claire Destacan, dotée d'un indéniable haut potentiel intellectuel.
Je te veux sous l'eau.
Julien Doré, Coco Caline.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h27 et on se demande ce matin comment identifier les enfants surdoués avec le pédopsychiatre Gabriel Val et la psychologue clinicienne Jeanne Siofachin. Bonjour Rosane.
Bonjour.
Vous appelez de Carquefou.
Tout à fait. Je vous appelle, en fait, j'ai 3 enfants, donc dont l'aîné a 10 ans. Il a toujours été vécu à l'école toute sa maternelle et aussi le CPCE1 comme un enfant difficile, qui avait du mal à s'exprimer avec des mots, avec ses amis, et qui en fait voilà, a été vécu comme quelqu'un de plutôt compliqué en collectivité. Excusez-moi, je suis émue, alors j'ai même pas commencé par remercier France Inter et ses émissions que je voulais faire absolument.
Merci Rosane.
Et donc voilà, je suis partie sur mon cas directement, désolée. Voilà, et en fait, en déménageant en région nantaise il y a maintenant 1 an et demi, donc à la rentrée, pas cette rentrée, mais la rentrée d'avant, je demandais donc si mes enfants étaient bien intégrés, et puis le retour concernant l'aîné, qui a 10 ans et qui était en CM1, était assez mitigé. Sa maîtresse me disait « Bon, c'est pas super, mais je me donne le temps d'observer et je vous reviens dans quelques temps. » 3 semaines après la rentrée, elle nous convoque pour débriefer un petit peu de ce qu'elle avait pu constater. Et elle nous dit qu'après nous avoir posé différentes questions sur quel bébé a été Léon, comment son enfance, etc., et puis son quotidien, ses habitudes, elle nous dit qu'elle lui a fait passer quelques tests, je crois une partie du test VIX, notamment concernant la partie littéraire, et elle nous indique qu'il fait des inférences littéraires qui lui font penser qu'il est peut-être enfant précoce. Et là-dessus, on aurait pu vouloir pousser, mais en fait, on n'est pas au clair par rapport au diagnostic, ou je ne sais plus comment on doit l'appeler, qu'on n'est pas au clair. Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que c'est un début de quelque chose? Faut-il vraiment, si notre enfant, nous, le critère qu'on s'est fixé jusqu'à présent, c'est que si Léon paraît bien dans sa peau, qu'il a des amis et qu'il ne paraît pas stressé, parce qu'il a un petit côté un peu stressé, et puis surtout, il est très épris de justice, il est très puriste au niveau justice, ça doit être une équité parfaite tout le temps entre tout le monde. Et puis il a des choses comme, voilà, il a beaucoup d'auto-ironie, il a des symptômes, c'est vrai qu'il a des traits de personnalité et de caractère qui nous font penser que oui, il y a quelque chose.
Jeanne Siofachin a envie de vous répondre.
Oui, bonjour. Oui, je crois que c'est important, c'est-à-dire que là, effectivement, vous décrivez un certain nombre de particularités du fonctionnement de votre fils qui peuvent faire penser que cet enfant, ou pas d'ailleurs, hein, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est important et essentiel de passer par la case bilan parce que c'est la seule possibilité d'avoir un profil fiable. Mais ce qui me paraît très important d'identifier ces enfants-là, c'est justement de savoir qui on est pour savoir où on va et ne pas avoir de mauvaises interprétations. C'est-à-dire que ces enfants-là, moi, c'est comme ça que je suis venue à m'intéresser à ces enfants-là, c'est de rencontrer dans un laboratoire de recherche à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière, un nombre considérable d'enfants qui venaient consulter pour des difficultés scolaires et des échecs scolaires retentissants et des souffrances de vie insupportables et qui pour autant avaient précisément des scores très élevés sur ces échelles comme le WISC, donc l'échelle d'intelligence. Et ça peut être un point d'entrée. Donc il faut faire attention parce que certains de ces enfants-là, pour des tas de raisons, comme ils ont besoin effectivement de beaucoup de précision, qu'ils ont ce sens très aigu de la justice, qu'ils veulent aller jusqu'au bout, que quelquefois ils peuvent se sentir en décalage, peuvent se sentir mal accueillis dans l'école et être plutôt inhibés, en retrait et être des sous-réalisateurs.
Gabriel Val, sur le témoignage de Rosane.
C'est un témoignage très intéressant. Je crois que le premier conseil que l'on peut donner à Rosane, c'est de faire passer un test de QI, un WISC, mais complet, pour vraiment analyser la situation. Bien recenser les difficultés, parce qu'il y a peut-être des difficultés qui n'ont pas une importance majeure, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants précoces ont une capacité à exprimer et à faire partager leurs petits soucis, qui peuvent donner l'illusion qu'ils sont plus tourmentés que les autres. C'est simplement parce qu'ils les expriment avec plus plus de talent et avec une capacité de partage supérieure.
Merci beaucoup, Rosaine, de nous avoir appelé depuis Carquefou. Question de, ou plutôt remarque de Catherine sur Facebook qui nous dit « J'espère que vous irez plus loin que la question de la détection. Détecter ces enfants surdoués, on sait le faire. » Mais après.
Alors on sait le.
Jeanne Chaupachin.
Oui, on sait le faire.
Le faire
oui, ben... oui, on sait le faire. On sait le faire. Honnêtement, on sait le faire. C'est-à-dire à partir du moment où on a un professionnel bien formé, seuls les psychologues peuvent faire passer des bilans de QI. Donc et normalement, on est formé à ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais après, ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner et puis de bien prendre en, aussi en, en compte Gabriel Wall. C'est ça, Val. Voilà, je vais y arriver. Je vais être, avant la fin de l'émission, j'y arriverai. Gabriel Val disait effectivement que c'était des enfants qui parlaient beaucoup plus des petits tourments qui étaient les leurs, mais il y a aussi cette notion d'intelligence qui ouvre le champ, c'est-à-dire une intelligence à 360 degrés qui fait que ce sont des enfants qui perçoivent énormément d'éléments dans leur environnement, et c'est ça aussi qui peut donner cette particularité.
On va y revenir, Jeanne Siofachin, mais on l'a dit, hein, un enfant surdoué, c'est un enfant qui possède un intellectuel très supérieur à la moyenne, hein, autour de 130. Mais ça mesure quoi exactement le QI, cette invention française, je crois. C'est à la demande du ministère de l'Instruction publique que le psychologue Alfred Binet établit à la fin du 19e siècle des échelles d'intelligence qui seront la base de tous les tests de quotient intellectuel, Gabriel Val.
C'est la partie historique de l'émission.
Oui, voilà.
Bah, si vous voulez, Alfred Binet, c'est un génie, si vous voulez, dans l'histoire de la psychologie. Parce que avant, pour apprécier les qualités intellectuelles, on s'en tenait à des détections sensorielles, c'est-à-dire quand on avait plus de sensibilité tactile, on pensait que les gens étaient plus intelligents. Et Alfred Binet, donc, lui, a essayé d'explorer toutes les capacités de l'intelligence, la mémoire, l'imagination, la capacité de raisonnement, la capacité mathématique, etc. Et il a fait une échelle par âge, c'est-à-dire qu'il a dit à 3 ans, on peut par exemple répéter 3 chiffres, à 6 ans, on peut en répéter 7. Et à partir de cette échelle, on a pu apprécier la possibilité d'avance, donc la possibilité de précocité d'un enfant, parce que par exemple un enfant qui a 4 ans, pour simplifier, a des performances d'un enfant de 6 ans, bah, il aurait par exemple un QI à 150. Et alors ça c'est l'artisanal. Alfred Binet donc avait beaucoup de génie, mais il a quand même travaillé seulement de façon artisanale, c'est-à-dire sur quelques dizaines ou quelques centaines. Et aux États-Unis, on a pris les prouesses d'Alfred Binet et on en a fait donc un test. Alors là, pas sur des milliers, mais sur des centaines de milliers et même pour l'un d'entre eux, sur plus d'un million. Et là, on a pu donc élaborer un test qui nous est donc revenu. Et donc en France, nous utilisons un test américain, David Wechsler, le WISC, mais dont l'origine est française.
Mais qui n'est plus lié aux avances de développement. Et c'est ça qui est important.
Oui,
voilà, qui est plus du tout lié aux avances de développement. Et ça, c'est important parce que ça reste quand même beaucoup dans les esprits.
Absolument.
Mais... Alors, obtenir un score élevé de QI, est-ce suffisant pour être considéré comme un enfant surdoué, Jeanne Siofachin?
Oui, de toute façon, effectivement, c'est le premier indice qui va orienter le diagnostic. Donc, c'est évident que c'est la porte d'entrée pour pouvoir poser un diagnostic, même si on va, comme le disait Gabriel Val tout à l'heure, on va aussi avoir cette fameuse approche clinique, c'est-à-dire où on va s'intéresser à l'ensemble du fonctionnement de l'enfant, à sa personnalité, à sa façon d'être, à son environnement à la fois scolaire et affectif.
Gabriel Val ?
Oui, le test est... Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment important de savoir que même s'il est soumis à un certain nombre de défauts et d'approximations, on ne connaît rien de mieux pour l'instant. Je voudrais, si vous me permettez, raconter juste une petite anecdote. J'ai reçu il y a peu de temps un enfant de 3 ans. Il est dans mon bureau, je l'aide pour déplacer un banc et il me dit « c'est une bonne technique ». Je suis bouche bée, je regarde les parents et ils me disent « Oui, mais vous savez, il écoute nos conversations entre adultes et puis quand ça lui plaît, il dit « Ah ben ça, c'est une bonne idée !» Et il a 3 ans. Il est vrai que le test est utile, mais il est vrai aussi que parfois une petite anecdote suffit à penser qu'il y a du talent.
Et le quotient émotionnel, est-ce que c'est utile pour déterminer si un enfant est surdoué?
Déjà, ça existe moyennement, le quotient émotionnel. Hein. C'est un peu une création. Alors, il existe des échelles pour évaluer les compétences émotionnelles qui, de toute façon, sont utiles parce que ça permet d'avoir toujours, c'est toujours pareil. C'est comme l'observation que Gabriel vient d'exprimer. C'est d'avoir une vision plus globale d'un enfant et ne pas le réduire simplement à un aspect intellectuel.
Si je vous comprends bien, être surdoué, ça veut d'abord dire fonctionner selon une structure de raisonnement, un mode de pensée différent.
Bah, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est les spécificités de cette organisation de l'intelligence qui vont donner des façons d'être au monde qui peuvent donner cette sensation de différence. Alors c'est pas une différence, il y a pas une différence qualitative au sens propre du terme, mais il y a une différence d'expression de ce potentiel en comparaison des autres.
Et là c'est Gabriel Val qui dodeline.
À peine. Non, je dirais que le fonctionnement n'est pas... C'est un petit paradoxe que je vais dire. C'est pas qualitativement différent sur le plan intellectuel, mais c'est qualitativement différent sur le plan de la personnalité. Par exemple, un enfant précoce, souvent, fascine par sa curiosité intellectuelle, par son questionnement savant et naïf à la fois. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent assez troublant. Par le fait aussi que ils ont souvent un sens de l'amitié qui est intense et qui fait d'ailleurs, c'est l'un des problèmes avec un autre que je vais exposer dans un instant, c'est l'un des problèmes des enfants d'adaptation à l'école, c'est qu'ils ont parfois un sens intense de l'amitié que ne leur rend pas toujours leurs camarades. Et le deuxième problème d'adaptation, c'est qu'ils ont des centres d'intérêt qui ne sont pas nécessairement en correspondance avec les enfants de leur âge. Et par exemple, j'ai le souvenir d'un enfant qui me disait « Les Pokémon, ça m'intéresse pas, mais j'en ramène. Je fais semblant de m'intéresser au foot, mais j'arrive pas à avoir des copains parce qu'on n'a pas de sujet commun. »
Allez, comment identifier un enfant surdoué? Nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. When you were young, used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Paul McCartney, Live and Let Die.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h41 et on se demande ce matin comment identifier un enfant surdoué avec le pédopsychiatre Gabriel Val et avec la psychologue clinicienne Jeanne Siaud-Fachin. Gabriel Val, est-il possible dès les premiers mois de la vie d'un enfant de repérer des comportements qui pourraient indiquer qu'un enfant est surdoué? Vous écrivez dans votre Que sais-je que les parents d'enfants surdoués rapportent souvent que le regard de leur bébé les a étonnés, pour ne pas dire intimidés, et ce dès la naissance, un regard qui scrutait littéralement tout autour de lui, qui fixait les parents et l'environnement.
Oui, alors ce sont naturellement des critères de pré-identification, mais on est seulement dans le registre de la probabilité ou de la possibilité, on est bien d'accord. Donc par exemple, en effet, il y a des enfants très jeunes, des bébés, qui regardent leur environnement avec une attention extraordinaire, comme si véritablement ils faisaient une analyse sociologique de leurs parents. Et ça, c'est un signe, disons, qui est évocateur, mais pas plus. Pareil pour, on peut dire, tenir le même raisonnement pour l'avance psychomotrice. Les enfants précoces, en général, marchent un petit peu avant. Si on prend des petits critères comme cela de vie familiale, par exemple, le fait de manger seul à la cuillère, un enfant précoce, c'est plutôt 12 mois, un enfant non précoce, c'est plutôt 18 mois. Mais bien sûr, il y a des enfants précoces qui marchent avant l'heure, si j'ose dire, et des enfants précoces qui marchent à 2 ans, et ils n'en sont pas moins brillants.
Et concernant les premières étapes du langage, qu'est-ce qu'on a pu constater chez les surdoués?
Alors, on constate deux choses. La première, toujours en termes de probabilité, la première, c'est qu'ils peuvent prononcer les premiers mots plus tôt, de l'ordre de quelques mois. Et la deuxième, et ça c'est une caractéristique qui n'est peut-être pas généralisable, mais qui est assez fascinante, c'est que souvent les enfants précoces se taisent pendant un an ou deux ans, et quand ils commencent à parler, on a d'emblée un langage élaboré. Donc c'est assez, c'est une sorte de petite fascination comme cela dans la relation entre parents et enfants.
Jeanne Siofachin.
Oui, je suis absolument d'accord sur tous ces points-là, sur le côté très scrutateur de ces enfants-là. Une fois encore, il faut jamais confondre un signe et un diagnostic. Il faut être extrêmement attention. Mais je pourrais rajouter que c'est vraiment cette intensité, ce sont vraiment des enfants intenses qui ont cette espèce d'avidité sur le monde, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de se saisir du monde et qui peuvent quelquefois mettre les parents à bout parce qu'ils vont poser des questions et des
avec
questions
cette soif d'apprendre,
jusqu'à l'infini. Hein. Ouais. Et moi je me souviens de cet enfant de 7 ans qui rentre dans mon bureau, qui me dit « tu comprends, dans ma tête, j'ai un arbre généalogique de mes problèmes ».
dès l'école maternelle et même la crèche, est-ce que les professionnels sont bien formés pour identifier les enfants surdoués, Gabriel Val?
Alors, bien formé, ça, je n'oserais pas faire une critique aussi générale, mais enfin, il est un fait que les enseignants n'ont pas de formation psychologique, que ce soit pour la précocité ou pour les autres difficultés qui peuvent intervenir en psychologie ou en psychiatrie.
Si vous êtes enseignant, n'hésitez pas à intervenir.
C'est vrai que ce n'est pas leur métier. Alors, je peux le dire d'autant plus volontiers que j'ai des parents enseignants qui, lorsque je leur explique deux ou trois petites choses, me disent « mais on n'a jamais eu un quart d'heure de cours sur le sujet ». Donc, ils sont spécialistes de leur discipline, mais ils ne sont pas forcément spécialistes de psychologie. Alors, cela dit, il y a des enfants qui, en quelque sorte, éblouissent indépendamment de toute considération savante et donc donnent le sentiment qu'il y a une petite avance. Et il y a aussi des enfants précoces qui expriment le fait que faire du découpage et du coloriage, c'est la barbe. Et que par conséquent, ils aimeraient apprendre de vraies choses.
Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
D'où appelez-vous ?
J'appelle de Montpellier.
Alors, vous avez été directrice d'école pendant un quart de siècle, 25
oui,
ans.
Oui, tout à fait.
Et vous avez accompagné des enfants qui avaient des signes de précocité, qui étaient surdoués ?
Oui. Et pour répondre tout à l'heure à ce que disait Jeanne Siofachin, c'est vrai que on est bien dans l'accompagnement sans être des praticiennes ni des spécialistes. Notre tâche, elle est extrêmement importante. Et elle nous a été facilitée par la loi de 2006 sur l'accueil des enfants particuliers, à besoins éducatifs particuliers, parce que c'est vrai que c'est pas tous les enseignants qui sont capables d'accueillir des enfants précoces, des enfants à haut potentiel, parce que la socialisation, c'est pas simple en maternelle pour tous, c'est pas quelque chose qui est aisé pour eux, ils sont quelquefois dans l'évitement, quelquefois dans la normalisation volontaire pour ne pas se sentir trop différent, mais c'est jamais tout à fait simple, comme le disait Monsieur Val.
Marie-Hélène, vous avez donc été directrice d'école pendant 25 ans. Est-ce que vous considérez que les enseignants sont suffisamment formés à identifier les enfants surdoués ?
Alors, moi, j'avais une deuxième casquette de formatrice, et à ce titre-là, il y a eu quand même, dans le milieu où j'intervenais, beaucoup de formation qui a été faite. Dans la formation initiale, bien sûr, si vous voulez, c'est du saupoudrage, mais quand même interpeller les enseignants sur ces enfants qui dérangent, parce que quelquefois ce sont des enfants qui dérangent, c'était une chose qui était importante dans notre système de formation. Par contre, nous avons été amenés à rencontrer des gens comme le docteur Olivier Revol, gens qui intervenaient, des psychologues cliniciens. On a beaucoup lu Madame Siofachin en équipe, pour essayer de travailler autour avec ces familles, parce que c'est bien de l'accompagnement de certaines familles. Il y a des enfants qui sont rejetés déjà à l'intérieur de leur famille parce qu'ils sont souvent incompris. Quelquefois, ils sont vus, quand ils ont d'extrêmes compétences, comme des enfants prétentieux, sur deux. C'est toujours des enfants qui dérangent quand il y a des hauts potentiels.
Merci beaucoup, Marie-Hélène, de nous avoir appelés de Montpellier.
Madame Tête, durant ces années, j'ai connu pas mal de prodiges de la musique, des mathématiques, mais jamais aucun avec le genre d'intuition de Fred, son genre de sensibilité. On m'a demandé de donner un cours cet été à Fieldhurst, et je voudrais profiter de cette période pour observer Fred. Il suivrait les cours, et en retour, il aurait ses études gratuites à l'Institut pendant autant de temps qu'il les suivrait.
Vous voulez emmener Fred à l'université?
Madame Tate, Fred n'est pas lépreux. L'intelligence n'est pas une maladie dont il faut le protéger à tout prix. Il est béni, mais il n'est certainement pas le seul. Il y a beaucoup d'autres enfants surdoués.
Oui, mais combien d'entre eux sont bénis avec un ulcère, hein? Combien d'entre eux vont se coucher tous les soirs en s'inquiétant de la couche d'ozone et des forêts tropicales? Et pourquoi tant d'innocents font buter dans notre monde? Fred fait de la bile pour tout, c'est plus fort que lui.
Dès maintenant, votre fils sent qu'il a besoin de stimulation et a envie de défis, et il voudrait un peu d'ordre dans sa vie. Je sais que nier le potentiel d'un enfant, c'est étouffer sa vraie personnalité.
Mais Fred, lui, il en a rien à foutre de son potentiel. Tout ce qu'il veut, c'est être un petit garçon, normal et heureux.
Un extrait du très joli film de Jodie Foster, Le Petit Homme, en 1991. Jeanne Siofachin, qu'est-ce qui singularise un enfant surdoué sur le plan affectif? C'est souvent un être hypersensible, capable de ressentir avec une grande finesse l'état émotionnel des autres?
Oui, c'est-à-dire que cette ouverture intellectuelle, l'intelligence, c'est interligérer, hein, c'est faire des liens avec toutes les composantes. Et donc effectivement, comme c'est très bien dit là, ce sont des enfants qui se préoccupent de tout, qui s'intéressent à tout, qui ont une très forte capacité d'empathie, c'est-à-dire de ressentir les émotions des autres, qui vont se préoccuper de sujets qui, a priori, ne sont pas des sujets qui préoccupent les enfants d'une façon générale. Donc ils peuvent se sentir en décalage par rapport aux autres enfants, ou même par rapport à certains adultes à qui ils vont poser des questions, et on va leur dire mais non, mais c'est pas ton âge, de toute façon, ou alors un truc terrible qu'on va pouvoir leur dire, mais on verra ça l'année prochaine, c'est pas dans le programme de cette année, et qui peut être une vraie souffrance, parce que, effectivement, là, dans le témoignage, dans ce film Le Petit Homme, on voit bien cet enchaînement de questions et de questions existentielles, et ce besoin, et puis aussi cette forme d'intuition qu'ont ces enfants, parce que quand on a cette intelligence en grand angle, et que de façon un peu comme un précipité chimique, on rassemble l'ensemble des éléments, on peut avoir des fulgurances et des compréhensions qui seront parfois difficiles à expliciter, à argumenter, ce qui à l'école est une vraie pénalité.
Gabriel Val, sur l'hypersensibilité de la plupart des enfants surdoués.
Voilà, alors non, justement, je ne suis pas sûr que les enfants surdoués soient beaucoup plus sensibles que les autres. Ce qui est sûr, c'est que c'est une question qui, en tout cas, n'a pas trouvé d'exploration statistique bien convaincante dans un sens comme dans l'autre. Et peut-être que l'on confond trois registres, que sont la capacité de se tourmenter quand on a une ouverture sur le monde, quand on est jeune et que l'on constate les injustices, la vie, la mort, l'intelligibilité du monde, enfin que sais-je. Donc effectivement, on a des questions qui sont de l'ordre du tourment. Mais ça ne signifie pas qu'au quotidien, ces enfants soient nécessairement plus anxieux. Donc ça, c'est la première confusion qu'il ne faut pas faire. On peut être tourmenté sans être anxieux, et on peut être anxieux sans se préoccuper aucunement des grandes questions du monde ou de la vie. Et d'autre part, pour ce qui est de la sensibilité, en effet, il y a un certain nombre d'enfants précoces, ça c'est incontestable, qui ont une sensibilité fantastique, qui ont une sensibilité qui est même douloureuse. Mais je pense que c'est une minorité, et que cette minorité ne correspond peut-être au même pourcentage que ce que l'on observe chez les autres, sauf que les enfants surdoués sont capables de l'exprimer avec plus de talent, plus de vigueur, plus de capacité de partage. Et c'est ça peut-être qui fait illusion sur la fameuse hypersensibilité des enfants précoces.
Jeanne Siofachin, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gabriel Val?
Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord sur l'analyse parce qu'elle est juste, elle est pertinente. Après, effectivement, l'hypersensibilité, enfin moi je suis pas du tout d'accord de toujours tout ramener aux statistiques, même si bien évidemment ce qui est très important, c'est que les recherches puissent valider les intuitions cliniques. Mais maintenant, dans l'observation et dans ce qu'on peut vivre, cette hypersensibilité, on n'a pas aujourd'hui trouvé de moyen de pouvoir la valider, comme vient de le dire Gabriel Val. C'est-à-dire qu'on a autant d'arguments dans un sens, dans un autre. Donc finalement, je trouve qu'à aujourd'hui, c'est l'observation et c'est la clinique qui prime. C'est-à-dire c'est la rencontre avec ces enfants, c'est ce que nous racontent ces enfants, ce que nous racontent ces adultes, parce qu'il ne faut pas oublier que ces enfants deviennent des adultes et que toutes ces caractéristiques et ces spécificités de fonctionnement intellectuel vont se poursuivre à l'âge adulte et peuvent, là aussi, à l'âge adulte, créer un certain nombre de décalages et de difficultés.
Alors, une petite anecdote, si vous le permettez, pour faire comprendre un peu mon point de vue. Donc, en effet, il y a des enfants tourmentés, ça ne fait absolument aucun doute, mais il y a aussi des enfants précoces, par exemple, qui peuvent tenir ce discours, et là, j'essaye de le citer à peu près au mot près. Ben, j'avais compris très vite que dans l'enfance, on pouvait faire toutes les bêtises qu'on voulait, et finalement, on était grondés, mais on n'avait pas de vraie punition, donc j'en ai profité un maximum. Voilà, ça aussi, c'est un discours d'enfant précoce, et là, on est à milieu du tourment, on est même dans le bonheur de vivre.
Oui, mais qui peut créer justement, chez certains, chez lesquels j'ai très souvent entendu cette réflexion-là, mais de dire, et c'est pour ça que j'ai pas du tout envie de devenir adulte, parce que j'ai bien compris qu'à l'âge adulte, eh bien, il fallait prendre un certain nombre de décisions et de responsabilités, et j'ai pas envie.
Pour terminer, pour conclure, si l'on a l'impression que son enfant est surdoué, faut-il l'amener dans le cabinet d'un psy pour effectuer des tests, des bilans, et puis plus largement, quels sont les protocoles sérieux d'identification de la précocité intellectuelle? Je pense, par exemple, à l'inventaire d'identification du psychologue clinicien Jean-Charles Terrassier que vous citez dans votre ouvrage, Gabriel Val.
C'est un inventaire qui me paraît assez pertinent comme première approche. Mais les enfants surdoués, c'est un terme dont on a parlé longuement ici, mais il y a un terme équivalent qu'on n'a pas prononcé, c'est enfants brillants. La majorité des enfants surdoués sont simplement des enfants brillants et ils n'ont pas nécessairement besoin de consulter. La majorité des enfants brillants, la majorité des enfants surdoués vont très bien et ils n'ont pas finalement d'intérêt majeur à passer nécessairement un test de QI. Et
Jeanne Siofachin ?
Je ne sais pas si c'est la majorité parce qu'on n'a pas d'études épidémiologiques, c'est-à-dire d'études au long cours qui soient vraiment validées et qui soient scientifiquement sérieuses pour pouvoir le dire. Après, évidemment, nous, on a un biais de consultation, c'est-à-dire que les enfants que l'on reçoit en consultation, ce sont des enfants qui vont pas bien. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une identification pour pas confondre. Si après, cet enfant ne va pas bien, d'avoir son profil, ça peut aider le parent à mieux l'accompagner.
Et je cite quelques items de cet inventaire d'identification de Jean-Charles Terrassier. L'enfant était capable d'apprendre à lire avant le CP, c'est-à-dire 6 ans. Il lit beaucoup et rapidement des livres, manifeste un grand intérêt pour les encyclopédies et les dictionnaires, est très sensible à l'injustice, même s'il n'en est pas lui-même la victime. Et il a le sens de l'humour, paraît-il.
Ça c'est sûr.
C'est une caractéristique vraiment centrale. Alors, on pourrait nuancer à l'infini, mais en tout cas, c'est peut-être pas le sens de l'humour, mais c'est une compréhension précoce de l'humour des adultes.
Donc les humoristes de France Inter, comme Daniel Morin, Alex Vizorek ou Charline Vanhoenacker, étaient sans doute des enfants surdoués.
Ça ne fait aucun doute.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, Gabriel Val. Je signale Les enfants intellectuellement précoces, un que sais-je passionnant au PUF, également passionnant, L'enfance surdouée, chez Odile Jacob de Jeanne Siofachin.
Merci beaucoup.
Once upon a time.
Il était une fois.
Les engrenages continuent de tourner, ça ne s'arrête jamais.
In the web.
Dans le web.
Bonjour Julia Foyce. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la polémique déclenchée par l'animateur star de C8, Cyril Hanouna. 20 000 plaintes pour homophobie déposées auprès du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans une séquence télévisée, l'animateur a piégé des homosexuels. Une simple blague, selon l'animateur, qui a fait son mea culpa dans une lettre publiée dans Libération.fr. Une blague qui a déclenché un déluge de commentaires sur les réseaux sociaux et qui rappelle que la lutte contre l'homophobie est loin d'être gagnée. Et c'est l'histoire que vous nous racontez racontée ce matin, Julia Foyce.
C'est l'histoire d'Amine, petit garçon discret, adolescent secret, pas comme les autres, c'est vrai. On ne le trouve pas hyper viril, ses parents disent qu'il est fragile. Ses potes savent qu'il n'est pas comme eux, mais ils s'en foutent. Ils ferment les yeux, jouent avec lui, parlent avec lui depuis tout petit. Ils sont amis, sauf quand le caïd s'amène avec sa bande, avec ses hyènes. Amine est dans leur ligne de mire, il va morfler. Il n'y a pas à dire, ses potes ont peur, ils baissent la tête, regardent leurs pieds, se sentent si bêtes. Ils aimeraient intervenir, ils bouent, ils ragent, mais ils le savent. Ils sont tous beaucoup trop petits pour faire le poids, pour protéger Amine, leur ami si secret. Amine qui part tout ce qu'il est, dérange les lois de la cité. Ici, on aime les hommes, les vrais, avec des muscles, avec des poils et la voix grave qui fait si mal. Ceux qui sentent la testostérone, des aisselles jusque dans la pogne. Amine transpire sa différence et par tous les pores de sa peau. Alors depuis qu'il est minot, il mesure l'intolérance d'une cité et d'un quartier, et puis de toute la société. Il est pédé, il va payer. On veut le faire rentrer dans le rang, devant tous ses potes impuissants. Dans les bons jours, juste un crachat, quelques insultes et puis s'en va. Mais bien souvent, on le roue de coups, on le menace, le tient en joue. Tête de turc, bouc émissaire, Amine apprend à esquiver. Demain, aujourd'hui, avant-hier, tous les jours changer de chemin pour pouvoir rentrer du lycée. Ou bien alors, ne pas rentrer quand ça chauffe trop. Amine le sait, mieux vaut éviter la cité. Dormir dehors, c'est moins risqué. Les années passent, Amine fait face. Et puis un jour, il disparaît. Plus de cité, plus de lycée, plus de menaces. Il a la paix. Surtout plus de mauvais garçons qui n'ont de caïd que le nom. Amine a voulu se faire la malle, se tirer, voulu mettre les voiles. Ses parents parlent d'accident à la cité qui fait semblant de croire qu'un adolescent n'a pas pu mettre fin à ses jours, qu'il n'a pas pu se suicider. Ce serait trop triste pour le quartier. Amine est mort il y a 25 ans. La semaine dernière, on l'a retué. C'est ce qu'écrit un de ses amis. Il s'appelle Ismaël Saïdi, scénariste, réalisateur. Il était devant sa télé avec son fils juste à côté. Il y jetait un œil distrait, mais il est resté subjugué en voyant Hanouna piégé en direct. Un homo, un gay. Il l'humilie, se moque de lui, parle avec une voix au perché et fait des mouvements du poignet. Ismaël, lui, reste scotché. Il est comme téléporté dans son passé, dans la cité, avec son ami si secret. Et puis alors, les larmes viennent. C'est de la rage et c'est de la peine. C'est surtout les mêmes rires de hyène qu'il entend là, à la télé, qu'il entendait dans la cité, quand Amine se faisait tabasser. Le fils d'Ismaël n'en revient pas et lui non plus ne rigole pas. Il y a des limites quand même, papa, c'est pas drôle ça, ça se fait pas. Non, mon fils, non, ça ne se fait pas. Je croyais même que ça se faisait plus, que c'était un monde révolu et que les casseurs de PD étaient morts avec le passé. À défaut de les enterrer, Ismaël éteint la télé. Et sur Facebook, il va écrire « L'histoire d'Amine, allez la lire, le texte est brut, il est glaçant, minimaliste, il est troublant. Troublant de voir comme cette histoire n'a pas de fin, comme nos mémoires tiennent en leur sein, tous ces Amines morts pour rien, ou presque car, on le sait bien, l'homophobie continue de tuer. La semaine dernière, journée mondiale, les chiffres ont été publiés. En France, c'est une recrudescence, plus 20% d'actes homophobes sur une toute petite année, une agression tous les 3 jours, et l'homophobie court toujours. » Il y a 25 ans, Amine croyait qu'en partant, il aurait la paix. J'espère vraiment qu'il l'a trouvée, qu'il peut dormir à point fermé.
Merci Julia Foyce. Il était une fois dans le web, c'est tous les mercredis dans Grand Bien vous fasse. Demain, je vous propose de pénétrer dans le cabinet d'un sexologue, loin des fantasmes et des idées reçues. Si vous avez déjà consulté un sexologue, n'hésitez pas à témoigner par courriel. Grand Bien vous fasse à radiofrance.com. À suivre Nagui et sa bande originale.